Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Radio Okapi pour l'édition de 18h. En ce jour historique marquant le 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous adressons nos vœux de bonne fête à tous les Congolais et à tous nos auditeurs. Que cette célébration soit un moment de fierté, d'unité et d'espérance pour notre pays. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Débat constitutionnel, l'appel à l'apaisement de Félix Tshisekedi. Lors de son adresse à la nation pour les 66 ans de l'indépendance, le président de la République a plaidé pour un débat responsable sur les réformes institutionnelles et rendu hommage aux héros de l'indépendance. Xénophobie en Afrique du Sud, l'inquiétude grandit à Pretoria et Johannesburg. Des ressortissants congolais témoignent de leur malaise après un nouvel appel de groupes anti-immigration visant les étrangers en situation irrégulière. Le preuve numérique au service de la justice. Invité de la rédaction, Kamel Ben El Abreg, conseiller en enquête numérique à la section d'appui à la justice de la MONUSCO, décrypte les enjeux de l'identification, de la collecte et de la conservation de preuves électroniques dans les procédures judiciaires. Voilà pour les principaux titres, le développement dans un instant. Soixante-six ans après l'indépendance, l'avenir institutionnel de la RDC s'invite au cœur du débat national. Dans un appel à l'apaisement et à la responsabilité, le président de la République demande aux Congolais de discuter de la Constitution dans un climat de sérénité, de paix et de respect des institutions. Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé ce lundi à l'occasion du 66e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Le chef de l'État a annoncé avoir transmis la loi référendaire à la Cour constitutionnelle chargée d'en examiner la conformité avant toute promulgation. Dans son adresse à la nation, il a également salué la mémoire de pères de l'indépendance ainsi que celle des martyrs tombés pour la liberté et la souveraineté du pays. Entre devoirs de mémoire et enjeux institutionnels, le président appelle à un débat responsable, loin des tensions et de division. Écoutons à présent Félix-Antoine Tshisekedi dans un extrait sélectionné par Alain Hong.
S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision, aussi importante soit-elle, ne saurait s'affranchir des règles, des procédures et des garanties que nous impose la loi fondamentale.
Miser sur la jeunesse pour construire l'avenir, c'est le pari du président de la République qui a lancé ce mardi 30 juin le programme Debout Jeunes Congolais, une initiative ambitieuse qui place les jeunes au cœur des politiques publiques avec un objectif clair, former, accompagner, employer et encourager l'esprit d'entreprise. Le programme repose sur 5 piliers, la formation professionnelle, l'emploi, le travail, l'égalité de chance et l'entrepreneuriat. Un geste qui fait scandale et secoue déjà la classe politique au Kasaï. Le maire de Tikapa est au centre d'une vive polémique après avoir déchiré publiquement un exemplaire de la Constitution. Faustin Lumulwabu revendique pleinement son acte, affirmant son opposition au texte fondamental de 2006 et son soutien à sa révision. Une posture qui suscite une vague d'indignation. En réaction, l'Assemblée provinciale du Kasaï réclame sa suspension immédiate, estimant que cet acte constitue une atteinte grave au symbole de la République. Les détails avec André Katende Ngalamulume.
La scène s'est déroulée lundi lors d'une matinée administrative. Devant plusieurs personnes, le maire de Tikapa a déchiré une copie de la Constitution. Faustin Lumulwabu dit vouloir traduire la parole en acte et soutenir le changement de la loi fondamentale. Une situation qui a aussitôt provoqué une vague d'indignation. Les députés provinciaux, réunis en plénière, condamnent les gestes. Gérard Ngechi dépose une motion d'information.
Dès lors que ce texte n'est pas encore changé, et alors que c'est bien elle qui nous régit, alors nous ne pouvons pas retrancher d'autres papiers. Mais je suis désolé que le maire de la ville puisse déchirer une copie de la Constitution devant le public.
La motion a ensuite été transformée en interpellation avant d'être adoptée par les élus. À main levée, ils ont recommandé au gouverneur du Kasaï de suspendre immédiatement le maire de Tikapa. Quelques heures plus tard, le gouvernement central est intervenu. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a prononcé la suspension préventive de Faustin Lumulwabu. Le ministre annonce également l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son endroit pour faute grave. Kananga, André Katendenga Lamulume, Radio Okapi.
En ces jours symboliques du 30 juin marqué par la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Martin Fayulu a livré un message mêlant devoir de mémoire, patriotisme et positionnement politique. Depuis Kinshasa, le président de l'ECID a d'abord rendu hommage aux victimes de la guerre qui continue de frapper l'est de la RDC, exprimant sa solidarité envers les familles affectées par la violence et les déplacements forcés. Dans son intervention devant la presse, l'opposant a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la RDC tout en appelant les Congolais à rester unis autour des valeurs de paix, d'éducation et de création d'emplois pour la jeunesse. Profitant de cette tribune, il a également réaffirmé son opposition à toute initiative visant à changer ou réviser la Constitution. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration recueillie par Blaise Ndongala Mayanda.
À l'heure de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale, nous ne pouvons plus nous permettre de rester en marge du monde moderne. Nous devons avoir le sens des priorités, restaurer la paix, défendre l'intégrité territoriale, lutter contre la corruption, créer des emplois, garantir l'accès à l'éducation de qualité, aux soins, à l'eau et à l'électricité. Voilà ce qu'attend le peuple congolais. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon opposition ferme au projet de changement de la Constitution du 18 février 2006, car elle constitue le socle de notre pacte républicain. S'engager dans une telle aventure, alors que des pans entiers de notre pays sont sous occupations étrangères, c'est offrir des arguments aux sécessionnistes et ouvrir la voie à la balkanisation. Notre pays n'a jamais eu un problème de texte. Il a toujours eu un problème d'homme.
66 ans après l'accession de la RDC à l'indépendance, quel regard les citoyens portaient-ils sur le chemin parcouru? Pour marquer cet anniversaire, Radio Okapi a recueilli les impressions de ses auditeurs à travers le pays. À Kananga, dans le Kasaï central, les avis sont partagés entre espoir, fierté et désillusion. Certains soulignent que les acquis de la souveraineté nationale, tandis que d'autres regrettent une évolution jugée insuffisante. Témoignage recueilli par André Katindenga Lamolomé.
C'est un bilan qui évolue, mais pas du tout satisfaisant, puisqu'il y a certains phénomènes qui persistent toujours. Par exemple, la guerre à l'est de notre pays. Il y a des détournements des fonds. Il y a beaucoup de défis à relever, comme l'enseignement, l'éducation, la nourriture.
La RDC est en train de faire beaucoup d'efforts. Sur le plan économique, notre pays aujourd'hui peut au moins se comparer avec plusieurs autres pays africains qui sont en voie de développement.
Ce soir, 6 ans, ce n'est pas peu. C'est l'âge de la sagesse des gens. Malheureusement, le bilan est négatif pour mon pays. Je les plaire. Mon pays est plongé dans les gouffres.
Je considère que les 66 ans de l'indépendance de notre pays constituent à la fois un motif de fierté et un appel à la responsabilité. Nous sommes fiers de notre souveraineté. Cependant, les Congolais attendent que les richesses du pays profitent davantage la population.
Après Kananga, cap sur Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC donne également lieu à des lectures diverses du parcours du pays entre satisfaction, espoir et regard critique. Les habitants interrogés dressent un bilan contrasté de ces 6 décennies de souveraineté. Certains saluent le progrès observé ces dernières années, notamment depuis l'accession du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, évoquant des avancées dans plusieurs secteurs. D'autres, en revanche, estiment que malgré les efforts entrepris, de nombreux défis liés au développement, aux conditions de vie et à la gouvernance continuent de freiner les aspirations de la population. De points de vue recueillis par Paulin Munanga.
On est en train de faire des cercles vicieux, toujours sur les mêmes discussions politiques. Les infrastructures ne volent pas. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas de rails, même les avions, il n'y a pas. Donc, moi, je dirais que l'indépendance n'a rien apporté. Il fallait encore laisser les Belges continuer à nous coloniser.
Moi, je trouve que parler de l'indépendance aujourd'hui, 66 ans après, c'est une flatterie pure et simple. Nous sommes dans un État qui est la République démocratique du Congo, qui s'est dit être indépendant, mais qui dépend encore des pays tiers.
Un bilan mitigé, hein. Certes, il y a eu certains progrès, mais nous sommes loin de jouir vraiment de notre indépendance en tant que pays. Et nous sommes très loin de vivre comme nation.
Le bilan, selon moi, a échoué. Éducation, chez nous, ça ne marche pas. Donc, beaucoup de choses, la guerre, les violations des droits de l'homme, c'est compliqué, voilà.
Depuis l'indépendance, aujourd'hui, nous comptons maintenant totaliser 66 ans. Tout dépend aussi des régimes, parce qu'avec chaque régime, il y a certains qui disent que non, quand même, nous avons vécu dans de bonnes choses. Nous avons vu, par exemple, quelques infractions. Les besoins sont encore là, surtout les plans.
L'indépendance politique est acquise depuis 1960, mais qu'en est-il de l'indépendance réelle? C'est la question soulevée par le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO, à l'occasion du 66e anniversaire de la RDC. Lors d'une rencontre de réflexion organisée lundi, cette organisation de défense des droits humains a estimé que le pays continue de faire face à plusieurs obstacles qui l'éloignent encore d'une pleine souveraineté. Face à ces constats, elle appelle la classe politique et les forces vives à assumer davantage leurs responsabilités pour construire une nation véritablement libre, prospère et démocratique. Écoutons Omar Kavota, coordonnateur national du CEPADO, au micro de Marc Marofimbo.
En même temps que nous devrions rendre hommage au père de l'indépendance 66 ans après, nous avons l'obligation de tirer les leçons de notre histoire pour nous engager à rendre notre avenir plus glorieux. Parce que on a l'impression que si ceux qui nous ont accordé notre indépendance l'ont fait à contre-cœur, nous n'avons pas fait non plus assez pour consolider les acquis de la lutte à son accession. Voilà pourquoi les premières années de notre indépendance ont été émaillées de scènes de trahison jusqu'à l'assassinat du père de l'indépendance, suivi de 32 ans de dictature et 30 ans d'agressions successives accompagnées du terrorisme émergent auquel on fait face aujourd'hui à l'est du pays. Et face à l'instabilité sécuritaire, à la précarité sur le plan socio-économique, l'insuffisance ou même l'absence d'infrastructures de base dignes de notre grandeur, nombreux Congolais estiment que la véritable indépendance traîne à être vécue. C'est pourquoi, à ce moment précis, nous engageons la classe politique, les forces vives de la nation, à plus de conscience pour honorer la lutte de ceux qui se sont battus à faveur de l'indépendance effective de notre pays.
Entre devoirs de mémoire et défis de l'heure, la nouvelle dynamique de la société civile du Sud Kivu exhorte les Congolais à faire du 30 juin un moment de réflexion sur la paix, la cohésion nationale et la reconstruction du pays. Son porte-parole provincial, le maître Wilfried Habamungu, appelle les Congolais à renforcer leur engagement en faveur de la paix, particulièrement dans l'est de la RDC, encore confronté à l'insécurité. S'adressant également à la jeunesse, il l'invite à faire de cette date historique une opportunité pour promouvoir les valeurs citoyennes et participer à la construction d'une RDC forte, juste et respectée, loin des antivaleurs. Il est au micro de Ronelyne Timbonera.
La nouvelle dynamique de la société civile du Sud Kivu s'incline devant la mémoire des martyrs de l'indépendance et rend hommage à tous les Congolais et Congolaises qui au quotidien porteront le valeur des libertés, de dignité et de patriotisme. En cette date symbolique, nous rappelons que l'indépendance est une responsabilité car elle nous interpelle à consolider la paix, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, à promouvoir la cohésion sociale et à défendre l'intégrité de notre territoire. La société civile reste mobilisée et réaffirme son engagement à défendre les droits humains, promouvoir la bonne gouvernance, la justice et le développement communautaire pour un site qui vous prospère. Nous lançons un appel à l'unité, à la vigilance citoyenne et à l'engagement de la jeunesse pour bâtir une RDC forte, juste et respectée.
Cap à présent sur l'Afrique du Sud, où les tensions autour de la question migratoire continuent de susciter l'inquiétude. Ce mardi 30 juin, plusieurs mouvements hostiles à l'immigration ont fixé en dehors de tout cadre officiel un ultimatum aux étrangers en situation irrégulière leur demandant de quitter le pays. Une initiative qui intervient dans un contexte marqué par une montée de discours et des manifestations à caractère xénophobe. À Pretoria, un ressortissant congolais indique qu'une marche anti-immigration a effectivement eu lieu, tout en soulignant le déploiement des forces de l'ordre pour prévenir tout incident. À Johannesburg, une étudiante congolaise dit vivre une situation avec appréhension, estimant que ces climats de tension affectent son quotidien et ses études. Nous l'écoutons au micro d'Alain Irung.
La situation est quand même assez très mal vécue par les Congolais vivant ici en République d'Afrique du Sud. Par exemple, pour nous qui sommes venus pour des raisons d'études, nous sommes supposés évoluer dans un environnement de tranquillité, d'équiétude, de paix aussi. Mais voilà que nous nous retrouvons très menacés, où notre sécurité également est très menacée. Alors c'est quand même assez compliqué. Les ambassades en ce moment sont pleine de ressortissants, notamment celle du Malawi, du Nigeria et toutes les autres. Et c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué. Nous avons tous vu des vidéos circuler sur les réseaux où on voyait nos frères être agressés physiquement, des femmes enceintes être expulsées des hôpitaux. C'est quand même une atteinte à la dignité humaine parce que tout devra se faire dans le respect de la dignité humaine qui est un droit garanti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Route, énergie, agriculture, santé, plusieurs secteurs clés pourraient bientôt bénéficier d'importants investissements. Ce lundi, le Sénat a approuvé 5 accords de financement totalisant plus de 500 millions de dollars américains et 208 millions d'euros. Présentés par le ministre de Finances Doudou Mfwamba, ces accords sont considérés comme stratégiques pour accélérer le développement du pays. Après le feu vert unanime de la Chambre haute, le dossier est désormais attendu à l'Assemblée nationale pour la dernière étape du processus. Les explications de Grace Hamzati.
C'est à l'unanimité des 78 sénateurs présents que la Chambre haute a autorisé la ratification de ces 5 accords de financement. Parmi eux figure un financement de 200 millions de dollars destiné à la modernisation et à l'extension de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi afin de renforcer les infrastructures de transport et de faciliter les échanges économiques. Les sénateurs ont également approuvé un financement de plus de 75 millions d'euros pour développer des mini-réseaux électriques dans les zones rurales et périurbaines, ainsi qu'un crédit de plus de 133 millions d'euros destiné à la construction d'un complexe hospitalier moderne dans la ville nouvelle de Kinshasa. Deux autres accords portent sur le développement agricole avec un appui de 70 millions de dollars au programme d'appui au développement rural inclusif et résilient et un financement supplémentaire de 16 millions de dollars en faveur des petites et moyennes entreprises agricoles. Présentant ses différents projets devant les sénateurs, le ministre des Finances Doudou Fombalikoundé a indiqué qu'il vise à renforcer les infrastructures, améliorer l'accès aux services de base et soutenir le développement économique.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud a connu ce mardi 30 juin une nouvelle journée de mobilisation contre l'immigration illégale. À Durban, sur la côte de l'océan Indien, des milliers de manifestants ont défilé pour réclamer le départ des étrangers en situation irrégulière. Ces rassemblements marquent l'aboutissement d'une campagne anti-immigration menée depuis plusieurs semaines par différents groupes de citoyens qui accusent notamment les immigrés de concurrencer les Sud-Africains sur le marché de l'emploi. Alors que le pays retient son souffle après plusieurs semaines de tensions ayant fait au moins 5 morts, la journée de ce mardi correspond à l'échéance d'un ultimatum lancé aux sans-papiers. Si la marche des Durban s'est déroulée dans le calme, des incidents ont en revanche été signalés à Johannesburg, où des groupes de manifestants ont tenté de s'introduire dans des commerces et des habitations. Malgré ces tensions, les organisateurs affirment vouloir poursuivre leur combat pour obtenir un durcissement de la politique migratoire.
L'invité.
À l'ère du numérique, le téléphone, les ordinateurs et le support de stockage sont devenus des sources essentielles de preuves dans de nombreuses procédures judiciaires. Mais encore faut-il savoir identifier, extraire, analyser et conserver ces données conformément aux exigences de la justice. C'est dans cette optique que la section d'appui à la justice de la MONUSCO a organisé à Beni, dans le Nord Kivu, une formation destinée aux magistrats, aux officiers de police judiciaire. L'objectif, renforcer les capacités de professionnels de la justice face aux nouveaux défis liés aux enquêtes numériques. Pour mieux comprendre les enjeux de ces démarches, nous recevons Kamel Ben El Abreg, conseiller en enquête numérique à la MONUSCO. Il répond aux questions de Marc Maroufimbo.
Kamel Ben El Abreg, bonjour.
Bonjour.
Question toute simple, c'est quoi la criminalité numérique ?
D'accord. Merci pour cette invitation, pour cette opportunité pour qu'on exprime les activités de la JSS CAP de Beni. Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma gratitude aux collègues formateurs et experts aussi en investigation numérique, Raphaël Ahnouch, qui a fait le déplacement depuis Kinshasa afin de partager son expertise à travers cette formation. Pour la première question, c'était qu'est-ce que c'est la criminalité numérique, ou plus précisément cybercriminalité, qui désigne l'ensemble des infractions commises à l'aide d'ordinateurs, de réseaux ou d'Internet. Ces crimes incluent des actions telles que le piratage, le vol de données, la fraude en ligne et les cyberattaques dirigées contre les infrastructures critiques. Ils peuvent aussi viser des individus, des entreprises ou des États, avec des conséquences parfois catastrophiques. La caractéristique principale de la cybercriminalité est son échelle globale, facilitée par l'anonymat, l'utilisation des crypto-monnaies et la portée transfrontalière des réseaux.
Et alors, pourquoi cette formation en ces moments précis ?
En effet, l'évolution rapide des technologies, de l'information, de la communication a profondément transformé notre environnement judiciaire. Donc aujourd'hui, une part importante des informations utiles aux enquêtes se trouve dans les téléphones, par exemple, mobiles, les ordinateurs, les applications de messagerie, les réseaux sociaux, les supports de stockage et les différents systèmes numériques utilisés au quotidien. Parallèlement, les auteurs d'infractions recourent de plus en plus à ces technologies dans la préparation, la commission ou la dissimulation de leur activité criminelle. Cette réalité impose aux acteurs de la justice et particulièrement à la justice militaire de développer des compétences adaptées afin d'identifier, collecter, analyser et préserver les preuves électroniques dans le respect des exigences légales et procédurales.
Alors, avec l'évolution des technologies et du numérique, et sachant que les criminels ont toujours une longueur d'avance sur la loi, croyez-vous que cette formation pourra réellement aider ces magistrats dans leurs enquêtes ?
Certainement. L'objectif de l'organisation de cette formation et deux, renforcer les capacités techniques et procédurales des magistrats militaires, des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de police judiciaire aussi, à savoir approfondir les connaissances sur le cadre légal applicable aux preuves électroniques, se familiariser avec les techniques d'acquisition forensique sur les appareils mobiles, d'exploiter des outils open source spécialisés et de développer les compétences nécessaires à la documentation et la présentation des preuves électroniques recevables devant les juridictions.
Voilà, Kamel Ben El Alpreg, merci.
Merci bien pour cette invitation.
C'était Kamel Ben El Abreg, conseiller en enquête numérique à la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Avec lui, nous avons évoqué les défis que pose aujourd'hui la gestion de preuves électroniques dans les enquêtes judiciaires, ainsi que les retombées de la récente formation organisée à Beni au profit des magistrats et officiers de police judiciaire. Ainsi s'achève cette édition du journal de 18h sur Radio Okapi, en ce jour marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. L'actualité est largement revenue sur les défis, les espoirs et les perspectives d'avenir du pays à travers les discours officiels et les réactions des citoyens. Merci de votre fidélité. À la mise en onde, Jean-Claude Nsiala, coordination Élisée Chikota, supervision Alain Hirong, présentation Gisèle Cage. Je vous rappelle que ce journal peut être réécouté à tout moment en podcast sur le site web de Radio Okapi, www.radiokapi.net. Excellente soirée à toutes et à tous sur Radio Okapi, la fréquence de la paix.